Et tout de suite, 24 heures en France, présenté par Charlotte de Rouen. Bonsoir Charlotte.
Rebonsoir Sofiane et bonsoir à toutes et à tous. Les surtaxes prévues dans le budget 2025 sur les grandes entreprises françaises poussent à la délocalisation. Voilà les mots de Bernard Arnault, le patron du luxe français, des propos qui font forcément vivement réagir, vous l'entendrez. La communauté éducative toujours sous le choc après l'interpellation d'une collégienne burkinabé pour être expulsée du territoire français à l'intérieur même de son établissement scolaire. Une telle pratique est illégale, a tenu à rappeler aujourd'hui la ministre Elisabeth Borne. C'est une avancée majeure pour les associations. L'Assemblée nationale a adopté hier une proposition de loi pour diminuer le coût des soins des femmes atteintes de cancer du sein, des prothèses mammaires ou encore des séances de nutrition seront désormais prises en charge. Bernard Arnault fustige l'augmentation prévue des impôts sur les entreprises françaises. Le PDG de LVMH, le numéro 1 du monde du luxe à travers le monde, dénonce une taxe sur le Made in France qui pousserait, je cite, à la délocalisation. Allusion donc à cette surtaxe d'impôts sur les sociétés prévue pour les plus grosses entreprises dans le budget 2025 et qui devrait rapporter environ 8 milliards d'euros à l'État, une sortie qui n'a pas tardé à faire réagir les politiques de tous bords, Charlotte Urien-Tomaca.
Si la porte-parole du gouvernement dit comprendre la colère de l'homme d'affaires, elle estime qu'il faut faire des efforts. Sophie Primas.
Dans la condition budgétaire dans laquelle nous nous trouvons, chacun doit prendre part aux efforts que nous demandons de façon temporaire.
Pour Philippe Juvin, député LR, le PDG de LVMH est dans son rôle et il faut l'écouter.
La France est le pays de l'OCDE qui a le plus fort taux d'imposition des sociétés. La question qu'il pose est légitime.
À gauche, ces déclarations ont sans surprise déclenché de vives critiques. Raphaël Arnault, député LFI, est acerbe.
Il s'en aille, le pays continuera à tourner comme il se doit. Puis au-delà de ça, on nous dit sans cesse qu'ils font tourner le pays, que ces gens-là offrent de l'emploi, etc. Alors déjà, bien rappeler que c'est de l'exploitation. Ils se nourrissent du travail des autres.
Cyrielle Chatelain, présidente du groupe écolo à l'Assemblée, est moins véhémente que son collègue insoumis, mais condamne les déclarations de Bernard Arnault.
C'est du chantage. En fait, aujourd'hui, je pense que Bernard Arnault, il bénéficie aussi beaucoup de l'image de marque française. Donc en fait, non, je ne crois pas à la menace de Bernard Arnault. Et si à un moment il délocalise, ça sera un effet d'aubaine et ça sera juste inacceptable.
Le gouvernement a indiqué ne vouloir appliquer cette surtaxe que pour un an. Mais Bernard Arnault a jugé en marge de cette même conférence de presse, je cite, « impossible que l'État baisse ensuite les impôts ».
Et alors que les discussions sont toujours dans l'impasse concernant le budget, la porte-parole du gouvernement a appelé les socialistes à ne pas prendre le budget en otage. Le PS a annulé une réunion de négociation hier, réaction au propos du Premier ministre François Bayrou sur le sentiment de submersion lié à l'immigration, des propos du Premier ministre qui ne passent pas chez les socialistes. Il est interdit aux forces de l'ordre de pénétrer dans un établissement scolaire lors d'une procédure d'expulsion du territoire français. Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, l'a rappelé aujourd'hui au recteur face à l'émoi suscité par la interpellation d'une élève burkinabé dans l'enceinte de son collège. C'était la semaine dernière en Moselle. L'adolescente de 14 ans avait été interpellée par les gendarmes dans son établissement avant d'être expulsée avec sa maman et son petit frère vers la Belgique. Magali Leclerc, directrice d'école et secrétaire régionale du syndicat enseignant UNSA, se dit choquée de ce qui s'est produit.
Le signal est très négatif, hein, parce que justement, si la loi Valls de 2013 existe, c'est justement pour protéger les enfants dans le cadre scolaire et périscolaire. Et donc, c'est un très mauvais signal. Des forces de l'ordre armées qui pénètrent dans un établissement, ce n'est pas tolérable et ce n'est même pas légal. Les forces de l'ordre ont possibilité de rentrer dans l'établissement pour faire des formations ou s'il n'y a jamais des enfants qui ont commis des choses, des infractions, mais pas pour venir chercher un enfant pour l'expulser, quoi. Ce matin, comme je suis aussi directrice d'école maternelle, je peux vous dire que le recteur s'est adressé à tous les directeurs, les chefs d'établissement, les inspecteurs pour expliquer exactement la règle et ce qu'il fallait faire ou pas. Et je voulais dire, justement, l'équipe de cet établissement est très éprouvée parce que les pauvres, ils ont été confrontés à une situation qu'ils n'avaient pas du tout cherchée, quoi.
Des propos recueillis par Amélie Beaucourt. Au procès du financement libyen présumé de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy, le tribunal continue d'explorer l'hypothèse d'un pacte de corruption noué entre l'ancien président de la République et l'ex-dictateur libyen Muammar Kadhafi. La justice explore les éventuelles contreparties d'un tel pacte, et notamment autour du sort juridique d'Abdallah Senoussi, le numéro 2 du régime libyen condamné en France pour l'attentat contre l'avion DC-10 de la compagnie UTA. Ce mercredi, Alain Juillet, ex-directeur des services de renseignements extérieurs, devenu chargé des renseignements économiques auprès du Premier ministre de 2003 à 2009, a été entendu. Un témoignage plutôt favorable pour la défense de Nicolas Sarkozy, beaucoup moins en revanche pour deux de ses anciens ministres, Laura Martel.
En 2006, Alain Juillet s'inquiète de la bataille que se livrent deux entreprises françaises pour décrocher des contrats liés à l'aviation libyenne. L'une était représentée par Takeddine et je découvre qu'il se promène en Libye avec une lettre soi-disant signée par Nicolas Sarkozy dans laquelle il était dit que si les affaires étaient réglées, Senoussi serait gracié, raconte-t-il. Pour lui, c'est une évidence, le ministre ne peut avoir signé une telle lettre, il convoque donc Ziad Takieddine. Je lui ai dit que ça pouvait engager dangereusement la France car si Senoussi y croyait puis se sentait floué, il pouvait y avoir des réactions, y compris des attentats. J'ai dit arrêtez avec cette lettre ou vous aurez de gros malheurs. Quand je dis ça en général, on m'écoute, il ne l'a plus utilisée. Pour Alain Juillet, cette lettre, dont l'intermédiaire s'est vanté tout en refusant de lui montrer, était sans conteste un faux. D'autant plus qu'à l'époque, tout le monde savait qu'il fallait se méfier de Takieddine. D'ailleurs, le témoin estime possible que l'homme d'affaires ait piégé Claude Guéant et Brice Hortefeux en leur faisant rencontrer Abdallah Senoussi. Par contre, si c'était un piège, il lui paraît invraisemblable qu'aucun n'ait alerté sa hiérarchie et surtout que Claude Guéant ait continué à voir Takieddine. Claude Guéant était pour moi une référence. Je me suis demandé après comment il avait pu être impliqué dans des choses pareilles, si ça n'avait pas été le rôle des intermédiaires de l'entraîner, commente Alain Juillet avant de conclure. Longtemps, j'ai eu du mal à admettre qu'il ait pu faire un certain nombre de choses et j'attends pour cela que la justice se prononce.
Laura Martel, c'est le cancer le plus fréquent, le cancer du sein, 60 000 nouveaux cas détectés chaque année. L'Assemblée nationale a adopté hier une proposition de loi pour diminuer le coût des soins pour les patientes. Plusieurs actes médicaux seront désormais remboursés, une avancée majeure que saluent les associations. Baptiste Coulon.
Pour 141 contre 0, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité.
Un texte adopté à l'unanimité. Rare démonstration d'union politique mardi soir à l'Assemblée nationale. Il faut dire qu'il y avait urgence à légiférer pour les associations, car si les traitements essentiels du cancer du sein sont remboursés, ce n'était jusqu'alors pas le cas d'autres soins, explique Mélanie Courtier du collectif Jeunes et Roses qui accompagne les femmes atteintes d'un cancer du sein.
Il y a plein d'effets secondaires induits par les traitements qui nécessitent des produits spécifiques. Qui sont chers, mais qui sont indispensables. C'est un coût qu'on doit supporter pendant plusieurs années.
Un coût estimé à 1 400 € en moyenne par an et par femme. Mais désormais, les soutiens-gorge post-opératoires, le renouvellement des prothèses mammaires, les crèmes seront remboursés. Une mesure bienvenue pour les patientes les plus précaires, salue Mélanie Courtier.
Pour certaines femmes qui, en plus de subir un cancer, ont des situations de vie compliquées, avec des situations de précarité assez fortes, c'est un peu la double peine. Il y a des choses auxquelles elles n'avaient pas accès jusque-là. Donc on espère que là, elles vont pouvoir vivre mieux leur parcours de soins et être un peu apaisées. Donc oui, ça c'est de l'espoir.
La loi prévoit aussi une enveloppe pour financer des soins psychologiques, des séances de nutrition ou d'activité physique. Son montant doit être précisé dans les prochains jours.
C'est un autre facteur important de maladie, la pollution de l'air. 40 000 décès sont attribuables chaque année aux particules fines, maladies respiratoires, cardiovasculaires, diabète. Des experts de Santé publique France ont étudié les conséquences de cette pollution sur notre santé. Valérie Cohen.
Les scientifiques ont étudié l'impact de la pollution de l'air sur le développement de 8 maladies de différents types. Respiratoires d'abord. Ainsi, l'exposition aux particules fines émises par le chauffage au bois et le trafic routier notamment provoquerait chez les moins de 18 ans 40 000 nouveaux cas d'asthme. Cela représente 20% de la totalité des nouveaux cas annuels. Mais ce polluant est aussi en cause dans la survenue d'autres pathologies. Le docteur Sylvia Medina coordonne le programme Air et Santé à l'agence Santé publique France.
C'est des particules qui pénètrent très profondément dans les voies respiratoires, qui peuvent traverser les parois alvéolaires et qui vont dans la circulation sanguine. Et c'est pour cela que, au-delà de l'appareil respiratoire, ces particules fines peuvent aller dans les différents organes, donc que ce soit au niveau cardiovasculaire ou neurologique, ou elles peuvent affecter des maladies métaboliques comme le diabète.
Ainsi, selon l'étude, l'exposition aux particules fines causerait plus de 14 000 cas de diabète de type 2 chez l'adulte et près de 80 000 cas d'hypertension artérielle. Les experts insistent, réduire les concentrations de particules fines et de dioxyde d'azote au niveau recommandé par l'Organisation mondiale de la santé aurait un impact positif majeur. Une très grande partie des dizaines de milliers de cas de maladies liées à la pollution de l'air serait évitée.
Valérie Cohen, on connaît désormais la liste des nominations pour les Césars et trois films raflent à eux seuls 39 citations. Le Comte de Monte Cristo, L'amour ouf et Emilia Pérez, les grands succès de l'année dernière. La cérémonie des Césars qui récompense les pépites du cinéma français aura lieu le 28 février prochain.
24 heures en France. Charlotte de Rouen.
Et on continue à parler cinéma avec le nouveau film de Robert Guédiguian. La Pivoleuse est sortie ce mercredi dans les salles obscures. Le réalisateur marseillais y aborde les thèmes de la précarité, de la solitude et de l'accès à la culture. Une œuvre à la croisée des préoccupations sociales et de son amour pour le soleil et les paysages du Sud-Est. Robert Guédiguian est l'invité de Lisa Géraldini.
Robert Guédiguian, bonjour.
Bonjour.
Votre nouveau film, La Pivoleuse, raconte l'histoire de Maria, une auxiliaire de vie précaire qui vole quelques euros régulièrement aux personnes âgées dont elle s'occupe. Déjà, tout simplement, comment vous est venue cette idée ?
C'est très très simple en fait. C'était mon chef monteur, lorsque nous montions le film précédent, a eu un coup de téléphone, il décroche et c'est le commissariat et je le vois qui dit « Mais non, je connais très bien cette dame, elle est formidable. Ça fait 20 ans qu'elle s'occupe de ma mère, je l'aime beaucoup. Non, elle m'a rien volé, voilà, moi je la garantis. Bon. » Et il raccroche, il me raconte cette histoire de l'aide ménagère de sa maman qui était au commissariat. Si quelqu'un peut déposer une plainte contre elle. Et voilà, c'est venu de là. Je me suis dit, tiens, si on inventait effectivement donc une histoire à partir de là. Et à partir de là, le récit commence, hein, puisque dans le film, évidemment, on dit pourquoi.
On remarque que les maisons, les jardins, les intérieurs sont toujours très soignés avec une belle décoration. Pourquoi c'est un aspect que vous avez particulièrement travaillé ?
Les travailleurs modestes, en général, sont des gens extrêmement attentifs à leur intérieur. Ils soignent leur intimité et ils essaient effectivement de le rendre le plus agréable possible. Chez certains personnages avec, je trouve, quelques erreurs, bien sûr, parce que les erreurs viennent du fait, d'ailleurs, qu'ils ont été soumis à une pression, on va dire, une pression médiatique, une pression publicitaire, qui fait qu'ils essaient, là, par contre, de ressembler à la manière dont vivent ou dont se meublent les bourgeois. Et là, ils n'en ont pas les moyens, donc là, ils prennent du toc. Dans le film, il y a quelques décors, en particulier le décor du personnage principal, qui est une espèce de faux luxe, quoi. On voit bien que c'est pas de la qualité, quoi, et que c'est pas très joli. Mais c'est clinquant, en fait, voilà.
Vous filmez le personnage principal de Maria avec un regard très bienveillant, empathique. On devine que pour vous, ces vols sont totalement légitimes en réalité.
Oui. Il participe à la répartition des richesses en faisant ça, hein. Je vous dis, bon. Il lui manque un peu d'argent, elle prend un petit peu ce qu'il lui faut. D'ailleurs, elle le vole avec beaucoup de parcimonie, hein. Elle prend 10 euros, elle n'en prend pas 20. Elle prend juste ce qu'il lui faut pour pouvoir payer des études de piano à son petit-fils. Et même aussi pour se faire des petits plaisirs, quoi. Mais je crois que tout le monde a droit à des petits plaisirs. Donc j'aime bien les pis, moi. Les pis en général. Les pis, c'est un mosque qui brille. Mais moi aussi, j'aime ce qui brille, en fait. Et puis, elle se paie aussi des heures supplémentaires, d'ailleurs, en faisant ça. Parce qu'elle est très, très dévouée. Et d'ailleurs, au fond, ce qui me choque le plus, en fait, c'est quand elle dit, d'elle-même, elle dit « j'étais bête » parce qu'au fond, si je leur avais demandé un peu d'argent, ils me l'auraient donné. Et ça, c'est grave, c'est-à-dire qu'elle n'ose plus leur demander.
Certains personnages qui semblent n'avoir rien en commun, au début, finissent quand même par se comprendre, voire adopter la même attitude, comme par exemple Monsieur Moreau et son fils. Ça vous tient à cœur, ces ressemblances entre les gens ?
Oui, parce que je crois profondément qu'on est tous pareils, en fait, voilà. Il y avait un vieux proverbe qui disait « Faut jamais dire en fontaine, je ne boirai jamais de tonneau ». Effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer, voilà. Il peut se passer quelque chose qui fait que on a le même comportement que quelqu'un qu'on a détesté pour ce même comportement quelques années plus tôt. C'est le cas, là, entre le père et le fils. Il arrive au fils une histoire qui fait penser singulièrement à l'histoire qui est arrivée au père en 30 ans auparavant. Et du coup, il va se déjuger par rapport à son père, il va se mettre à le regarder avec plus de tendresse et de compréhension. Et je crois que, finalement, on devrait tous penser ça les uns des autres avant de se juger, parce que il faut quand même penser qu'on est tous pareils.
Merci beaucoup, Robert Guédiguian.
Merci.
Robert Guédiguian, invité de Lisa Géraldini du service culture de RFI.
Reportage France.
Il y a plus de 7 semaines que le cyclone Chido a ravagé Mayotte. En métropole, la communauté mahoraise et comorienne est toujours mobilisée. C'est le cas notamment en Provence où des collectifs continuent inlassablement de récolter et d'envoyer de nombreux dons vers l'archipel. Reportage de Siam Spencer.
Départ de Marseille avec un camion prêté par un bénévole de l'association Ambre.
On part en direction de Toulon. Et là, ben, c'est parti, on a rendez-vous là-bas pour 14h, on va récupérer des denrées alimentaires.
C'est Naher, le président de l'association qui s'occupe d'aller chercher les dons.
Alors actuellement, on est en train de charger tout ce qui est liquide, donc eau et lait. Ensuite, on va charger les cartons de pâte, riz, conserve, couscous. Et par la suite, si on a de la place, on va mettre le matériel médical. Et si vraiment il nous reste encore de la place, on va prendre les vêtements.
Mais rapidement, le camion marseillais est plein à craquer.
Nous, on va essayer de trouver un deuxième camion pour mettre tout dedans.
Abdou est président de l'Union Mahoraise de Toulon.
Comme ça, on vous suit. Comme ça, on déballe tout là-bas. Ça sera bien que tout part, quoi. Là, si ça reste là, il faut encore attendre une semaine ou deux semaines. Ça va retarder. Et il y a des gens qui en ont besoin, quoi. Donc, on va essayer de trouver un camion. C'est mieux, ouais.
20 minutes plus tard, un camion remorque appartenant à un des bénévoles se gare sur le parking.
Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que tout va là-bas dans l'île déjà, à Mayotte. Après, c'est à eux là-bas de voir comment ça se passe, quoi. Parce qu'il y a des gens qui meurent de faim, des gens qui n'ont même pas d'endroit pour dormir, s'habiller, manger, tout ça. Donc on essaie de faire le geste. Voilà.
Parce que là, c'est surtout de l'alimentaire.
Il y a beaucoup, beaucoup de l'alimentaire aussi, il y a beaucoup des vêtements, il y a de tout en fait. Il y a des jouets, il y a des trucs hygiène aussi, des dentifrices, de tout.
Plus de 60 gros cartons en tout, des dons qui affluent depuis des semaines ici à Toulon, explique Kassim, un bénévole comorien.
On a rassemblé tous les gens de Toulon, que ce soit malgache, anjouanais, comorien, mahorais, et franchement ça a bien marché.
Une mobilisation qui ne doit pas s'arrêter là pour lui.
C'est continuer surtout, c'est pas qu'aujourd'hui seulement. La crise va pas s'arrêter aujourd'hui. On a fait cette action, faut pas lâcher. S'il faut une fois par mois relancer les dons, il faut le faire. La reconstruction de Mayotte, ça se fera pas en un jour. Les vies, les gens, la misère, ça ne s'arrêtera pas en un jour, donc il faut continuer.
Une fois les camions chargés, puis les dons déposés dans un hangar à Marseille, l'heure du bilan avec Naher.
Alors là, on vient de décharger tous les dons qu'on a récupérés sur Toulon chez les collègues. On a pratiquement 7 à 8 tonnes de denrées alimentaires et de vêtements avec matériel médical.
Des dons qui partiront par la mer et mettront un peu moins de 2 mois à arriver jusqu'à Mayotte.
Un reportage signé Siam Spencer. C'est ainsi que s'achève ces 20 minutes d'information consacrées à l'actualité française. Merci à Valentin Vaner qui m'a accompagné ce soir à la réalisation, à Loïc Bussière à la rédaction en chef. Restez avec nous dans 30 secondes, c'est le retour de l'actualité africaine.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Tchad, après avoir contesté les résultats de l'élection présidentielle et boycotté les législatives, l'opposant Succès Masra se dit prêt à travailler avec le président Mahamat Idriss Déby. Que vous inspire ce revirement? Quelles en seront les conséquences politiques?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.